Bon, c'est dans la boîte.
Alors,
Très bien.
juste avant que j'oublie, le cours sera l'Eloi Nishmat, Yonatan Chevroni, du Beth Midrash de Givat Shmuel et de toutes les victimes de la tragédie de Meron.
Bien sûr. L'Eloi Nishmatam et les fois de tous les blessés, évidemment, et également de l'attentat de Tzomet Tapuach. Alors les amis, Erev Tov Likoulam, et on est lancé donc dans notre étude du lundi sur les personnages extraordinaires qui ont marqué nos 150 dernières années. Et là, comme on se prépare à Yom Yerushalayim la semaine prochaine, évidemment, eh bien, il n'y aura pas cours puisqu'il y aura danse, il y aura drapeau, il y aura Yom Yerushalayim. Donc, eh bien, on a réfléchi, on s'est dit, il fallait parler de la personnalité rabbinique la plus jérusalémienne possible. Et donc, eh bien oui, ça fera doublon pour toutes les personnes qui, je me rappelle même plus quand est-ce qu'on avait fait ça, mais il y a quelque temps, lorsqu'on avait fait le Tioul, je sais pas, il y a combien d'années c'était?
J'aurais dit 2 ans, mais...
2 ans, toi, tu dis? Pas plus?
Peut-être.
Top,
peut-être 3.
Donc peut-être ça fera doublon avec le Tioul qu'on avait fait Bikvot, Reb Arié Levin. Mais l'honora, ça nous rafraîchira la mémoire et ça permettra aussi aux autres de vouloir participer au prochain Tioulim. Alors on y va. On va Beikvot, Reb Arié Levin, Rabbi Arié Levin, Harav Arié Levin. Immersion, c'est parti. Alors, évidemment que le début de l'histoire, c'est une histoire classique. Évidemment que je peux vous dire qu'il est né en 1885. Seder, et qu'il est né dans pas loin de la région de Bialystok. Ok, je peux vous dire qu'il a passé par plusieurs yeshivot ktanot, qu'il a été refusé à la yeshiva de Volozhin parce qu'il était trop jeune pour y rentrer. Bon, tout ça, d'accord. Mais le plus important de la vie de Reb Arié Levin, c'est quand il décide finalement d'arriver ici. Quand il décide d'arriver en Eretz Israël, il a 20 ans. Et en fait, c'est là que tout va véritablement commencer. Évidemment, il a déjà commencé à étudier la Torah bien avant, il est déjà Talmid Chacham, mais la vie et l'œuvre de Reb Arié commencent à partir du moment où véritablement il arrive en Eretz Israël. Lorsqu'il arrive en Eretz Israël, eh bien tout de suite, il se rattache énormément avec celui qui est le grand rabbin de Jérusalem, celui qui est un des personnages rabbiniques les plus importants de la ville. Il s'appelle Harav Tzvi Pesach Frank. On fera certainement une étude plus poussée sur lui. Et donc, le Rav Frank, il va tout de suite déceler chez Reb Arié Levin quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui est, qui est pas normal. Et donc, pas normal dans le sens, il a quelque chose, ce bonhomme, qu'on retrouve pas chez les autres. Où est-ce qu'on trouve d'ailleurs ce petit quelque chose? Eh bien, ce petit quelque chose, parmi tous les personnages qui ont rencontré Reb Arié Levin et qui peuvent témoigner, et quand on voit la photo que tu as publiée, machin, c'est Bapanim. Bapanim, Apanim shel Reb Arié Levin, eh bien, ça dit tout. Ça dit tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et au final, eh bien, lorsque le Rav Frank va déceler chez Reb Arié Levin cette dimension extraordinaire, eh bien, il lui dit, écoute, j'ai une belle sœur. J'ai une belle sœur, elle aussi, elle vient d'arriver en Israël, et je pense que ça pourrait valoir le coup que vous rencontriez. Et donc, ni plus ni moins, ni une ni deux, le jeune Arié va rencontrer la jeune Hana. Et ils vont pas tergiverser, hein. Au bout d'une rencontre, les deux, ils sont clairement dedans. Ils sont clairement motivés. Ils se disent, alors on va se marier, c'est tout. Le seul problème, c'est que dirait Barry Levin à sa future femme, Hanale, et lui dit, il y a un minag ancien du peuple juif, c'est que lorsqu'on se fiance, le Khatan donne à la Kala un petit cadeau et la Kala donne au Khatan un petit cadeau. Aval, nous, on n'a rien à donner. C'est-à-dire que toi et moi, on est des nouveaux immigrants, on n'a rien. On peut rien donner. Alors Hana lui dit, mais c'est pas grave. On fait pas le, c'est pas grave si on donne pas de cadeau. Et Reb Aryeh lui dit, non, il faut qu'on se donne un cadeau. Alors j'ai un cadeau que je te propose, qu'on peut se donner mutuellement, et qui est gratuit, mais par contre qui reste pour l'éternité. Et Hana lui dit, nounou, ma. Et là Reb Aryeh, il lui dit, matnat avitour. Qu'à partir de maintenant, dans notre vie à tous les deux, eh bien, toujours, on sera mevatrim echad lasheni. Lorsque tu me demanderas quelque chose, même si c'est pas ce que je veux, ani mevater lach. Et lorsque je demanderai quelque chose, même si c'est pas ce que tu veux, at mevater etli. Tu acceptes tu acceptes ma volonté, et moi j'accepte ta volonté. Toujours, quoi qu'il arrive. Eh bien, les amis, c'est ce qui va amener ce couple à vivre besimcha, beshalom, vebeahava gmura. Tellement gmura que cette histoire de Reb Aryeh Levin, à Tzadik à Yerushalmi, est tellement connue que lorsqu'il arrive chez le médecin parce que sa femme a une inflammation du pied et que Reb Aryeh lui dit au médecin, docteur, le pied de ma femme nous fait mal. Et chez Reb Aryeh Levin, ce n'est pas une tournure de style, c'est ma mâche, kacha. Alors, il est temps de rentrer dans le tzaddik à Yerushalmi, dans le tzaddik de Jérusalem. Il est le personnage de Jérusalem, et sous bien des aspects. Je vais vous dire un truc pour commencer. Lors de son enterrement, en 1969, dans les Spédim, qu'il n'y aura pas. Reb Aryeh Levin a demandé dans son testament, si on peut dire comme ça, dans ses dernières volontés, qu'il n'y ait pas de Spédim le jour où il meurt. Parce qu'il ne veut pas qu'à cause de lui, les gens soient tristes. Donc il a demandé qu'il n'y ait pas de Spédim. Maintenant, tu t'imagines bien que c'est le genre de demande qu'on ne respecte pas. Sauf que, ben là, il a tout fait en sorte pour qu'on respecte. Et donc, Reb Aryeh Levin part Be'erev Shabbat Agadol. Et donc, il n'y aura pas de Espédine parce que, un, c'est Mamash Erev Shabbat. On est Samouch Mamash de Shabbat. Et deux, c'est Chodesh Nissan. Donc, dans les deux cas, on ne fait pas de Espédine. Il n'y aura pas de Espédine comme il l'a demandé. Mais, pendant les moments qui ont suivi l'enterrement, Shiva, eh bien, les gens diront que Reb Aryeh Levin, il y a quelque chose de très, très, très particulier. Des tzadikim, il y en a plein. Des gdolé olam, il y en a plein. Mais Reb Aryeh Levin, quand il est parti, personne, ben, il ne devait demander pardon à personne. Il n'y a aucune personne sur Terre qui devait encore recevoir la demande de pardon de Reb Aryeh Levin. C'est-à-dire que il a jamais fait du mal à qui que ce soit. Personne ne s'est jamais senti offensé par lui. Il n'a jamais eu à demander pardon à personne parce qu'il n'a jamais porté atteinte à personne. La grandeur de Yerushalayim Sheosa et Kol Yisraël Lechaverim. Pourquoi on dit que c'est le tzaddik de Jérusalem? Eh bien parce que Jérusalem a plusieurs qualités dans la halakha et dans la Haggadah juive. Eh bien, Reb Aryeh Levin avait toutes ces qualités-là. Reb Aryeh Levin vit à Jérusalem dans une époque terrible. Et là, je préfère le dire. Quand on parle d'époque terrible, j'entends depuis le drame de Méron, j'entends des gens continuer à dire « Mais il faut se remettre en question et qu'est-ce que Dieu il veut de nous ?» Je rejoins, je me rappelle plus qui l'a écrit. Je l'ai lu, je sais plus qui a écrit. Que quand on n'arrête pas de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il faut se remettre en cause, se remettre en question et tout ça. Moi, j'ai envie de voir aussi que juste après le drame de Méron, on a vu un peuple juif extraordinaire. Alors, il y a eu le drame, bien sûr. Et on va pas rentrer ce soir dans le débat. Il aurait pu être évité, il aurait dû être évité, et de tout le balagan qui se trouve autour de Méron et des Iloulot de l'Akba Omer. sans rentrer là-dedans, on a vu après un peuple juif qui fonce donner son sang, un peuple juif qui fonce préparer à manger, un peuple juif qui est complètement Israël à Révim Zélazé. Donc quand on dit il faut se remettre en question, sûrement toujours il faut se remettre en question, mais on a pu voir aussi un peuple juif extraordinaire. Extraordinaire. Quand on parle d'époque terrible pour l'âme Israël, évidemment je pense que je ne vous surprends pas en vous parlant de Khurban Bet Amigdash. Le problème c'est que Khurban Bet Amigdash, il y a une différence entre le premier et le deuxième. Premier Bet Amigdash, Avodah Zara, Shfichut Damim, Gilui Ariot. C'est évident qu'il faut détruire le Beth Amikdash avec une situation comme ça, où les gens ils s'entretuent, où les gens ils sacrifient leurs enfants au Moloch. Non mais enfin, le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas les trois Averot, il y avait Sinat Rinam. Rabotai, quand on parle de Sinat Rinam, on va tout de suite dans l'esprit, l'époque du second temple, Kamsa, Bar Kamsa. Mais quand on parle de Sinat Rinam, d'une époque terrible où le peuple juif il se comporte n'importe comment, eh bien il faut parler des 30 années avant la création de l'État d'Israël. En fait, depuis l'arrivée des Britanniques au pouvoir, et ce, eh bien, jusqu'à la création de l'État d'Israël, la situation est terrible. Sinat Rinam, de quoi on parle, Rabotai? Sinat Rinam plus Shfichut Damim. C'est non seulement la haine gratuite, mais avec ça, le meurtre. C'est ce qu'on appelle la période de la saison. La saison, on s'entretue entre juifs. On se vend aux Britanniques entre juifs. Parce qu'à ce moment-là, vous le savez, en Israël, il y a trois groupes qui veulent amener l'indépendance d'Israël. Trois groupes que si tu demandes à un des mecs de chaque groupe, combien il y a de groupes qui sont en train de bosser pour Israël, chacun te dira il y en a un. Les autres, c'est des terroristes. C'est qui ces trois groupes? C'est la Haganah, c'est le Etzel, Irgun Tzvaï Leumi, organisation militaire nationale, qu'on appelle en français simplement le Irgun, et Alehi, Lechima Lecherut Israël, combat pour la libération d'Israël, dirigé par M. Stern, et c'est pour ça qu'en français, on appelle ça le groupe Stern. Les amis, saison, on est en train de se vendre et de s'entretuer. Et c'est dans cette Jérusalem-là que Reb Aryeh Levin apparaît. Reb Aryeh Levin, lorsqu'il commence à bosser, et on y reviendra sur cette dimension de Martarot, mais Reb Aryeh Levin, lorsqu'il arrive à Jérusalem, lorsqu'il arrive Bichlal en Israël, il va rencontrer des personnages. Il a déjà des rabbanim, mais lorsqu'il arrive en Israël, il rencontre, dans les premières minutes de son arrivée en Israël, il rencontre le grand rabbin de Yafo et des Moshavot. C'est qui le grand rabbin de Yafo et des Moshavot? C'est le Rav Kook. Avant qu'il vienne à Jérusalem. Et ils discutent tous les deux. Le petit Aryeh Levin, quand il arrive, il a une vingtaine d'années. Il arrive, on est déjà en 1905. Le Rav Kook est déjà le grand rabbin de Yafo et des Moshavot. Et il accueille ce nouveau juif arrivé. Et ils vont discuter ensemble. Et à ce moment-là, Reb Aryeh, dans la discussion, va arracher une feuille. Une feuille comme ça, d'un arbre, d'un arbuste, je sais pas quoi. Et Az, il entend un cri retentir du Rav Kook. Il dit, Bakara! Il lui explique, Aval, tu te rends pas compte que chaque créature de Kadosh Baruch Hu, elle a un malach qui lui tape sur la tête le matin et qui lui dit, pousse! Grandit. Yesh Ashgacha Baolam al Kol Davar. Comment est-ce que tu as pu briser la vie de cette feuille? Et dira le Rav Kook, plus que de n'importe qui, J'ai appris à Jérusalem et en Israël du Rav Kook, qui m'a enseigné que Behemet verachamav al kol maasav. Verachamav al kol maasav. Sa miséricorde est sur toutes ses créatures. Alors, Rebari arrive à Jérusalem, et à Jérusalem, où se marche la Rabbanout, évidemment, par le Rav Kook, entre autres, par le Rav Israël Salant, entre autres. Et donc, il devient très rapidement un des Melamed à la Yeshiva de Etzraïm. Melamed, ça veut dire qu'il ne s'occupe pas des grands, il s'occupe des petits. Alors qu'il est également le Mashgiach Haruchani de toute la Yeshiva. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes que Rebari Levin, c'est Talmid Chacham Atzum. Il est le Mashgiach de la Yeshiva de Etzraïm, c'est énorme. Mais il est également Melamed Tinokot. Il est celui qui s'occupe à enseigner dans les petites classes. Rachamav al kol ma'asav. Combien va être choqué? Combien va être, comment dire, complètement, ahuri? Ahuri! Lorsque, un soir, c'était pas tout jeune, hein? Un soir, je te parle de ça, il doit être 10-11 heures, j'ai pas l'heure exacte, hein, évidemment. Mais lorsqu'un soir arrive Rebari Levin, Beshrunat Me'asharim, dans la maison de la famille Friedman, et qui demande non pas à parler au papa ni à la maman, mais il demande à parler au petit Moïshele, qui est un des élèves du Talmud Torah. Et les parents demandent, mais il a fait quelque chose de grave? Et Rebari Levin lui répond, non, moi, j'ai fait quelque chose de grave. Et le petit arrive en pyjama et il dit, tout à l'heure, tu es venu me demander une question dans mon bureau et je ne pouvais pas te répondre. J'étais en train de faire autre chose, j'avais pas le temps. Tu voulais me parler et j'ai pas pu te parler. Et quand j'ai eu finalement le temps, tu étais reparti à l'école. Tu étais reparti en classe et je me suis dit que si tu étais venu dans mon bureau, c'est que c'était important. Alors je suis venu te demander pardon et je suis là maintenant, tu peux me raconter tout ce que tu veux. Le gosse, il a 8 ans. Ça va, c'est pas grave. Il lui dira demain. Rebari Levin, Rachamav al kol ma'asav. Ze Yerushalayim, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, il est le Mechanech, le Melamed, dans le Bet Hamidrash de Etzraïm. Mais les amis, ça va beaucoup plus loin. Parce que, alors qu'il a, la quarantaine, Majoukazé. C'est quoi, on va faire un calcul, il est mort à 84 ans, en 69, donc en 48, il a déjà 60 ans, lorsque les Anglais... Ouais, c'est ça, entre 40 et 50 ans. Lorsque les Anglais commencent à ouvrir les portes de Migrash Haroussim, c'est la prison de Jérusalem. Mais la prison de Jérusalem, elle sert, du moins pour ce qui est des Juifs, à des prisonniers politiques. C'est quoi des prisonniers politiques? Ce sont des activistes qui veulent dégager les Anglais pour réaliser la déclaration Balfour, en fait. En fait, ce sont les membres du Hetzel, du Lehi et de la Haganah. Il y a aussi des prisonniers musulmans et des prisonniers chrétiens qui sont des prisonniers de droit commun. Maintenant, tous les prisonniers juifs, musulmans, chrétiens se réunissent et disent aux autorités britanniques, nous demandons de recevoir le minimum des conventions internationales, donc évidemment nourriture, eau, ce que tu veux, mais nous demandons également un représentant religieux qui vient nous voir une fois par semaine. Alors il n'y a pas de problème. Les Anglais disent pas de problème. Et donc la Messima est lancée. Il s'agit d'un vrai travail officiel, rémunéré, où il s'agira de venir deux fois par semaine voir les prisonniers. Ça va mettre une journée à trouver le prêtre et l'imam. mais on ne trouve pas de rabbin. Les Anglais vont donner toutes les listes de tous les rabbins officiants à Jérusalem. Et les émissaires des Anglais vont aller chez chaque rabbin. Et on parle de près de 178 rabbins. Ils vont tous aller les voir. Il n'y en a pas un qui accepte. Bah, au final, entre parenthèses, le rabbin officiel des prisonniers à Jérusalem, c'est en fait le rabbin officiel des prisonniers du pays. Rabbi Yaakov Goldin. Mais ce n'est pas lui dont on va parler. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Ils n'ont pas trouvé. Pourquoi ils n'ont pas trouvé ? Parce que les rabbins, ils ne veulent pas. Vous savez pourquoi ils ne veulent pas ? Parce que dans ces prisons-là, on a dit, il y a des membres de la Haganah, du Hetzel, du Lehi. Et que donc, si Chas v'Shalom, on a vu le rabbin parler avec un des membres du Hetzel, il est très possible que les bruits se sachent et que dans quelques jours, des membres de la Haganah se retrouvent devant l'école de ses enfants. Juste pour faire passer un message, évidemment. Donc, tous les rabbins refusent. Et les Anglais savent pas quoi faire parce que c'est des Ashkénazes, les Anglais, tu vois, ils veulent que ce soit carré. Et donc, ils savent pas quoi faire. Jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui travaille dans les bureaux en Israël, qui est juif, qui est israélien, qui est autochtone, et il voit qu'ils galèrent, ils n'arrivent pas à trouver de rabbin. Alors, le juif, il dit, c'est rare, Shani Shoel, mais est-ce que vous avez essayé Rebarié? Et les Anglais, ils regardent leur liste. Ils disent, c'est qui Rebarié? Il dit, bah, Rebarié. Mais c'est qui Rebarié? Mais enfin, Rebarié. Rabotai, il faut que vous compreniez une chose. Et là, on va rentrer dans le personnage. Harav Arié, il y en a plein à Jérusalem. Rabbi Arié, il y en a plein à Jérusalem. Mais il n'y en a qu'un que tout le monde appelle Reb Arié. Sans nom de famille. Reb Arié. Et donc, lorsque le juif, il dit, ben, vous avez demandé à Reb Arié, pour lui, c'est clair de qui on parle. Les Anglais ne savent pas de qui on parle. Finalement, il leur explique qu'il s'agit de Rav Arié Levin. Il dit, où est-ce qu'on habite? Et ils lui disent à côté du Chouk. Et là, tu as les Anglais qui arrivent au Chouk, Mahane Yehuda, et qui demandent au premier vendeur de cornichons qu'ils trouvent, où est-ce qu'on peut trouver Reb Arié? Ah, Reb Arié, bêtard! Mais bien sûr, tu prends la première à droite, ensuite à gauche, tu montes l'escalier, tu descends, tu fais le tour, c'est là-bas. Maintenant, déjà, l'anglais, il n'a pas compris. Le problème, c'est que tu as le vendeur d'en face, qui évidemment a tout entendu, et évidemment, on va se mêler, et dit, ma pitam, Reb Arié, c'est pas par là, faut aller à droite, ensuite descendre, ensuite remonter, par la gauche, ce truc. Et puis, t'as un troisième qui intervient aussi. Kitsour, c'est pas clair du tout, mais une chose est très claire, tout le monde le connaît. Et donc, finalement, ils payent un mec pour qu'il l'emmène devant la maison, et ils arrivent devant la maison, qui est aujourd'hui dans la rue Arié Levin, du Rav Arié Levin, mais bon, c'était pas le nom de la rue à l'époque, en plein milieu de Nachlaot. Et quand ils toquent à la porte, ils s'attendent à voir un vieux rabbin à la barbe blanche. Ils trouvent un jeune rabbin, 40-50, une barbe qui commence à peine à grisonner. Et ils lui disent, Rav Arié Levin, Ken, voilà, on aimerait vous proposer de devenir le rabbin des prisonniers. Mais ça veut dire quoi, le rabbin des prisonniers? Ça veut dire qu'il faudra aller les voir de temps en temps. Alors le boulot, c'est deux fois par semaine, voilà. Et Reb Arié lui dit, il dit aux émissaires, Avalamani, pourquoi moi? Pas pourquoi moi comme les autres qui ont refusé. Pourquoi moi? Je ne suis pas digne. Aller visiter les prisonniers, c'est une mitzvah extraordinaire. Les Anglais lui disent, tu veux ou tu veux pas? Il dit, Bavadaï. Bon, ok, alors faut signer le contrat. Le problème, c'est que le contrat comporte un alinéa que Reb Arié Levin ne veut pas signer. C'est quoi cet alinéa? c'est qu'il doit être rémunéré pour ça. Et moi, rémunéré? Avalech mitzvah. Le baker atzirim. Ve mi yodea matan sraran shel mitzvot. C'est à moi de décider, c'est à vous de décider combien je dois gagner pour cette mitzvah. Moi, je suis prêt à le faire que si c'est gratuit. Que si je suis pas payé pour ça. Et les Anglais, ils disent, non, c'est un boulot officiel, officiel. Résultat des courses, c'est Barry Levin, que tout le monde appelle le papa des prisonniers. Il était officiellement pas le rave des prisonniers. Parce qu'il a refusé de signer si on devait le payer. Aval Rebar Yelevin, il sera là toutes les semaines, une fois par semaine, et une des tfilotes de Shabbat, il priera avec eux. Il ira toutes les semaines au Migrash Haroussim pour voir les hommes et à Bethlehem pour voir les femmes. Et lorsque Rebar Yelevin arrivait, tu pouvais voir tous les plus gros malabars de l'histoire fondre devant Rebari. Si bien qu'il y a une phrase qui aujourd'hui est marquée sur les murs de la prison, qui est aujourd'hui un musée, que les prisonniers ont dit, ils disaient, c'est pas que Rebari Levin a réussi à nous sortir à la liberté. Mais Rebari Levin a amené la liberté à l'intérieur des murs de la prison. Rebari Levin, lorsqu'il arrive, non seulement il vient réconforter les cœurs, mais de tous les témoignages de ceux qui étaient là-bas. Tandis que Rebari, il prenait ta main, il la tournait et mettait sa main au-dessus de ta main, entre eux, la main du mec était un sandwich entre ses mains, lui. Il disait, tout le monde ressentait cette chaleur de Rebari Levin, l'homme qui aime tout le monde. Et l'homme que tout le monde aime. Le Rav Kook dira de Rebari Levin qu'il avait à lui seul un tiers de toute la Ahavat Rinam qu'il fallait pour reconstruire le Beth Amikdash. C'est à lui seul un tiers de l'amour gratuit qu'il faut, c'était chez lui. C'est énorme. Et donc, tous les prisonniers le voient comme étant leur papa. Et papa, lorsqu'il vient chaque fois et qu'il discute avec chacun, quand il sort de la prison, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas fini. Il a dans sa tête, et on peut voir ici la Ktovet, Rebari Levin 19. Mais Kitzur, lorsque il sort, il a dans sa tête les dizaines, vingtaines de messages que les prisonniers lui ont transmis pour leur famille. Des fois des messages codés pour le Hetzel, le Lechi, la Hagana. Et des fois Stam, Shalom, je suis toujours en vie. Et à ce moment-là, Rebari, il commence à aller 10 adresses, 20 adresses. Il n'y a pas de SMS à l'époque. Des fois, c'est au printemps, tout va bien, mais des fois, c'est en septembre, il fait un peu moins chaud. Des fois, c'est en janvier, dans la neige de Jérusalem. Des fois, c'est en plein mois d'août. Mais il y va. Il va dans chaque adresse pour donner le bonjour. Un jour, il a rencontré à Migrash Haroussim Raphaël Amzalag, combattant du Lehi. Il a été capturé il y a 2 jours. Sa mère ne sait pas s'il a envie, s'il n'est pas envie, où il est, qu'est-ce qui se passe. Il sort de la prison, il va chez la Geveret Amzalag. Il est 23h. Il toque à la porte. Il dit « Geveret Amzalag !» Il veut réveiller personne. Elle ouvre comme ça la petite chaîne et entre-ouvre la porte et elle voit Rebari. Rebari lui dit « Geveret Amzalag, merci de m'avoir ouvert. Simplement pour vous dire que votre fils est en vie. Il est au Migrash Haroussim. » Et demain, les horaires de Bikour, c'est à 9h. Là, il a tout. C'était rien pour lui, mais pour elle, c'était le monde entier. Rebari Levin est le papa des prisonniers. C'est comme ça que tous le ressentent. Et à chaque fois où il vient, il redonne le sourire et l'espoir à ceux qui sont enfermés. Mais un Shabbat, il arrive et tout le monde voit. On a dit toute la grandeur de Rav Aryeh Levin, c'est dans son visage. Eh bien, tout le monde voit que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Au début, il ne veut rien dire. Mais finalement, il va lâcher le morceau. Sa fille, Ethel. Ethel, sa fille, a été diagnostiquée malade. Il y a 2 jours, ils ont appris ça. Et les médecins lui donnent au plus quelques semaines. Et au moment où il leur dit, Rabotai, c'est Shabbat. Et Rav Aryeh Levin reste digne. Il est terriblement triste, évidemment. Et il continue à gérer la tfila. On arrive à créer ta Torah. Et ils font monter quelqu'un. Premier à la Torah. Et au moment du faire, Michel Berach. Et là, il lui dit, Bahavur Shaole Yiten. Qu'est-ce qu'il peut donner? C'est ce qu'on dit dans le Seigneur, Bahavur Shaole Yiten, Matana le Bet Knesset, Kiddush Gadol, ce que tu veux. Et là, le premier qui monte à la Torah, il dit, Chamesh. Et tout le monde a compris. Un autre, il monte, il dit 2. Un autre, il dit 1. Un autre, il dit 7. Les Assyrim voient Rav Aryeh Levin comme étant leur papa. Donc, si la fille de Rav Aryeh est malade, c'est leur sœur qui est malade. Et chaque personne qui monte à la Torah va donner des années de vie. Elle dit, voilà, moi, je donne 5 de ma vie. Dieu, tu notes? Tu me prends en moi, tu lui donnes à sa fille. Rabotai, au final, les Assyrim, ils vont donner 53 ans. Il y aura beaucoup de motifs ce Shabbat. Au final, ce sera 53 ans. Tagidou mach tagidou. Le Yom Rishon, le lendemain de ce Shabbat, les médecins disent à Rav Aryeh, à sa femme, tiens, on ne comprend pas, il y a une nette amélioration. Dans l'état de santé de votre fille. Et ça va de mieux en mieux. Elle va vivre 53 ans de plus que ce que les médecins avaient dit. Zer Rav Aryeh Levin, Rabotai. Rav Aryeh Levin, c'est cet homme qui est d'abord et avant tout un amoureux de chaque juif. On a dit, il est le tzadik à Yerushalmi. Yesh Mishnah, le Masechet Avot. J'aimerais que Echad Me'anissim, un des miracles qu'il y avait à Jérusalem, c'est que l'Olam lo amar Adam tzarli amakom she'alin birushalayim. Jamais c'est arrivé que quelqu'un dise, il n'y a pas de place pour que je dorme à Jérusalem. Rav Aryeh Levin, dans son commentaire de Masechet Avot, il a un commentaire de Masechet Avot. En fait, c'était des shiurim be'alpe qui ont été mis après par écrit, qui s'appelle aujourd'hui Rav Aryeh Haya Omer. Et à partir de cette Mishnah-là, Rav Aryeh Levin dit, comment est-ce possible que Léolam, pourquoi personne, comment c'est possible que jamais personne n'a dit, j'ai pas de place pour dormir? Rav Aryeh, il écrit, il dit qu'im ze nachon ayom, alors, c'est évidemment vrai également à l'époque qu'il y avait quelqu'un comme moi qui aurait ouvert sa maison, même s'il n'y avait plus de place, il y aurait eu encore de la place. Parce que moi, si quelqu'un avait plus de place, chez moi, il aurait de la place. Donc, jamais personne n'a dit « j'ai plus de place » parce qu'ils ont toujours la possibilité de venir chez moi. Et puis, des « chez moi », il y en avait aussi à l'époque du Beth Amikdash. Rav Aryeh Levin, Achdout Israël. Il y a plein d'endroits où il va prier. Mais la synagogue, alors on a dit Shabbat, il va dans une des tfilotes prier chez les prisonniers. Mais l'autre tfila, il va la faire chez la Bet Knesset Achdut Israël al Shem Olé Agardom. Bet Knesset qui est aujourd'hui juste à côté de Rehov Yafo, qui sert de Bet Hayetomim Aklali. C'est une Bet Knesset absolument unique, puisque là-bas, on retrouve les hommes du Hetzel, du Lehi, de la Hagana assis ensemble. Ce sont ceux qui ont perdu leurs amis, leur famille, entre les mains des Anglais, pour tous la même cause, ramener l'indépendance à l'État d'Israël. Et Barry Levin, il va prier là-bas chaque Shabbat, et à chaque fois qu'il vient, il fait un Dvar Torah. Mais chaque Shabbat, et plus le temps passe, avant la création de l'État d'Israël évidemment, et plus on a peur qu'un jour, un Shabbat, Rebarié oublie. Pas qu'il oublie de venir, mais qu'il oublie que lorsqu'il va monter faire le Dvar Torah, il y a la Bima, et ensuite il faut aller vers le Aaron Kodesh, il y a deux escaliers, un à gauche et un à droite. Et on a toujours peur que Rebarié oublie qu'il faut passer par la gauche et surtout pas par la droite. Qui n'emprunte surtout pas l'escalier de droite. C'est un escalier, c'est trois marches, hein. Pourquoi pas? Parce que chaque Shabbat, et ils le savent, il y a des Anglais déguisés. C'est la synagogue des hommes du Lehi, de la Haganah et du Hetzel, donc tu m'étonnes. Donc il y a tous les Shabbats des Anglais déguisés qui attendent qu'une seule chose, c'est de voir un truc pas bien, pas normal, et de leur fond de déclencher l'opération. Alors c'est très attention, faites très attention que Barrier ne passe pas par l'escalier de droite. Parce que s'il marche les marches de droite, s'il marche celle de gauche, à Koltov, ça fait un bruit de chaussures sur de la pierre. Donc ça fait, je sais pas. Mais s'il prend par la droite, alors là, ça sera un vrai problème. Parce que tout le monde, à ce moment-là, va entendre ça. Parce qu'en fait, les marches de droite, elles sont creuses. C'est un slick. C'est une cachette d'armes. Du Hetzel et du Lehi. Le Barry Levin, à chaque fois qu'il va monter, quel que soit le Shabbat, il parlera de Achdut Israël. Quel que soit la paracha, il trouvera un moyen de le ramener à Achdut Israël. Vous allez me dire peut-être que c'est Achdut Israël pour les mecs bien, entre guillemets. C'est peut-être qu'il est pour la Achdut pour les gens qui sont religieux. Barry Levin l'a souvent dit d'ailleurs, que Dieu lui a fait un grand cadeau. Un jour, il croise un jeune juif, la trentaine, et à peine il l'a aperçu que le juif s'est mis à courir. Barry a déjà 80 ans, et il lui court après avec sa canne, et il dit, Rabbi Yud, attends! Et le mec il se retourne, et Rebari arrive à son niveau et lui dit, mais enfin, pourquoi tu es parti? Il dit, Rabbi, j'ai honte. Il dit, de quoi t'as honte? Il dit, bah, j'ai été un des Talmidim de la Yeshiva Esraim. Il dit, bah, encore plus, alors j'ai envie de te dire bonjour. Il dit, ouais, mais en plus, tu connais mes parents. Il dit, bah, encore plus, je veux te dire bonjour. Ouais, mais tu comprends. C'est pas toujours un Rabbi, mais là, comme j'étais pressé, machin, je me suis habillé, j'ai pas de kippa. Et j'avais pas envie que vous me voyiez sans kippa. Rebari Levin, il lui dit, avec sa poignée de main légendaire, il dit, mais enfin, tu sais bien que Dieu m'a fait petit. Mehmet, Rebari Levin, c'est 1m55, un truc comme ça. Il dit, Dieu m'a fait petit. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a sur les têtes de gens, j'y arrive pas. Moi, je vois qu'au niveau du cœur. C'est Rebari Levin. Rebari Levin est le tireur le plus rapide de l'Ouest. Mais pas de pistolet, mais il dégaine du Shulom Aleichem plus rapide que n'importe qui. Agave entre parenthèses. Et là, je suis obligé de balancer cette parenthèse extraordinaire. Et Amevin Yavin, vous savez, on dit souvent Amevin Yavin. Ben là, je te le dis, Amevin Yavin. Donc, je te dis que Barry Levin, il était cholef Shulom Aleichem. Et c'était le plus rapide des chauffeurs de Shalom Aleichem. Est-ce que tu penses que c'est une exagération? Eh bien, j'ai envie de te dire que pas du tout, mon ami. Il y a un homme qui, après la guerre des six jours, décide de venir en Israël. Pas de problème. La folie, bon, c'est pas le seul, hein. Il y a énormément de gens qui viennent en Israël après la guerre des six jours. Mais en 1968, Reb Shlomo Karlibach vient faire un petit tioul en Israël. Et il rencontre Reb Aryeh Levin. Et Reb Shlomo dira qu'il croyait que lui était l'homme au Shulom Aleichem, mais il a trouvé celui qui a inventé le Shulom Aleichem. C'est-à-dire que même un homme comme Reb Shlomo Karlibach, qui avec sa guitare balançait du Shalom Aleichem toute la journée et a fait danser le monde entier sur Evenu Shalom Aleichem, a dit j'ai trouvé le maître absolu du Shalom Aleichem. Reb Aryeh Levin. Il y a même des enfants qui ont essayé de l'avoir. Ils témoignent. Ils disaient c'est pas possible que qu'il soit Sholef Shalom Aleichem avant tout le monde. Et donc, à deux, ils ont essayé de le piéger. Ils ont dit, on va se mettre d'un côté et de l'autre de la rue. Quand il va arriver, on va sauter chacun de notre côté en même temps. On va dire Shalom Aleichem. Il ne pourra pas nous avoir avant. Et ils n'arrivent pas à comprendre comment c'est possible que Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Mais attention, hein, d'ailleurs, entre parenthèses, le Shalom Aleichem de Reb Aryeh Levin, il n'est pas seulement rapide, il est précis. C'est-à-dire que si la personne en face de lui est un juif litaï, il lui dit « Shalom Aleichem ». Si c'est un juif racidique, il lui dit « Shalom Aleichem ». On appuie à un autre endroit. S'il rencontre un juif séfarade, il lui dit « Shalom Aleichem ». Et s'il rencontre un chacham séfaradi, il lui dit « Aleichem Shalom ». Il adaptera son « Shalom Aleichem » en fonction de qui est en face de lui. Avec une rapidité déconcertante.
Je suis en train de comprendre qu'on a fait un concert de Groovin avec Yehuda Katz, le guitariste historique de Reb Shlomo, et qu'on a repris sa variation de Shalom Aleichem. Je suis en train de comprendre pourquoi et pourquoi ça a bien marché.
Ben voilà. Bekitzur, Reb Aryeh Levin, Betsofo Shel Davar. Reb Aryeh Levin, lorsque la création de l'État d'Israël a lieu, alors, il n'y a plus besoin d'aller visiter les Assyrim, il n'y a plus besoin de tout ça. Mais il restera pour lui et pour les autres, celui qui aura peut-être autant que les combattants permis à la réunification de Jérusalem, à la réunification de l'État d'Israël, à la création de l'État d'Israël. Il est le seul qui aura su réunir le Ham Israël dans une période où tout séparait tout le monde. Et évidemment, comment parler de Reb Aryeh Levin sans évoquer cette histoire extraordinaire? Lors de l'attaque de la station de train de Jérusalem, sont capturés, alors que l'attaque a réussi, mais sont capturés Meir Feinstein et Moshe Barazani. Les deux sont amenés à Jérusalem et sont condamnés à mort. Vous allez me dire, il y en a eu d'autres des condamnés à mort à Akko. Oui, mais c'est la première fois à Jérusalem depuis l'Empire romain. Et on va condamner Meir Feinstein et Moshe Barazani. Et les deux ont droit à une dernière visite de leur famille avant de mourir. Et ils ont une dernière volonté, vous connaissez l'histoire. Ils demandent une orange de Jaffa, symbole de la réussite juive, de la résurrection. Seulement, c'était un code pour les hommes du Hetzel et du Lehi, qu'en fait, cette orange allait être coupée, vidée, remplie d'une grenade et recollée le chapeau. Et le but du jeu, c'est que comme leur exécution sera publique, eh bien lorsque ils seront face à tous les dirigeants anglais, ils dégoupilleront la grenade et tout le monde partira avec eux. Mais juste avant que les feux ne s'éteignent, ils reçoivent la visite de Reb Aryeh Levin, qui les conjure de demander grâce, de lui permettre d'aider et d'intercéder en leur faveur. Mais ils disent non. Et à un moment donné, Reb Aryeh leur dit très bien, alors si c'est comme ça, je viendrai demain. Je serai là demain à l'exécution. Pour que le dernier visage que vous voyez soit celui d'un papa qui vous aime, d'un frère juif et pas d'un ennemi conquérant. Ils essayent de lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il vienne. Ils ne peuvent évidemment pas dire pourquoi, parce qu'il y a les gardes anglais qui sont là. Et finalement, quand Reb Aryeh s'en va, ils n'ont pas réussi à lui faire changer d'avis. Et ils savent qu'il viendra demain et il est hors de question que leur action fasse mourir Reb Aryeh Levin. Au petit matin, tous les prisonniers du Migrash Haroussim entendront Adon Olam. Adon Olam, Asher Malar, Beterem Kol, Yetzir Nivra. Et lorsqu'ils arriveront au dernier passage, Veim Ruchi Geviati, Hashem Li Veloira. Je n'aurai jamais peur, car Dieu est avec moi. Les deux s'enlacent, mettent une grenade entre les deux, la dégoupillent et partent comme ça. Du témoignage qu'en fera son fils, Reb Refoel Levin, au moment où c'est arrivé, sur le moment, on ne savait pas, il n'y avait pas WhatsApp, mais plus tard, on a su. Il dira, au moment où Meir et Moïse sont partis, Abba ya bebet haKnesset, yashav vebacha. À ce moment-là, Reb Aryeh Levin l'a senti et il s'est assis en pleurant. Rabotai, Reb Aryeh Levin, lorsque finalement, en 1967, on va retrouver Jérusalem et on va délivrer la vieille ville et on va délivrer le Kotel. Reb Aryeh a déjà 82 ans. Et c'est pas forcément facile d'aller jusqu'au Kotel. Et bien des gens lui diront, peut-être que faut pas. Zemeayef, ça te rend fatigué. Diatem lo mevinim. L'espoir du Kotel a permis à 2000 ans de juifs de revenir en Israël. L'espoir du Kotel a maintenu 19 ans de juifs dans la certitude qu'on y reviendra. Le Kotel retrouvé me donne ce qui jusqu'à présent n'était que à moitié, me redonne la vie. Cette vie que Reb Aryeh Levin aura tellement essayé de donner autour de lui. Yerushalayim ze'ir ha-kodesh. Yerushalayim ze'ir shechuberala yachdav. Il fallait donc, pour assister au retour d'Am Israël à Jérusalem, d'y faire descendre et d'y faire résider l'homme qui sera dans toute sa vie. Lo ha'ir et la ha'ish shechuberala yachdav. Il deviendra l'homme qui aura réussi à réunir le peuple de Dieu dans la ville de Dieu. Zeh Reb Aryeh Levin, qui était en vérité pas seulement le père des Assyrim, pas seulement le rabbin des prisonniers, mais qui était tout simplement, et dans la bouche de tous, Reb Aryeh. Reb Aryeh, eh bien, si le Rav Kook nous a dit qu'il était un tiers de la Ahavat Chinam pour reconstruire le Beit HaMikdash, eh bien, si lui, il a pris sur lui tout seul un tiers, je nous invite à prendre sur nous deux tiers pour qu'on termine le travail et que cette ville devienne véritablement la ville réunifiée et pour qu'on puisse le retrouver. Bimera Beyamenu. Amen. Vechag Sameach. Les tout le monde.
Merci beaucoup. Ce qui est incroyable, c'est que tu parlais de cette...